débat africain, Madeleine Mokamabano.
Suite de notre débat consacré à la 15e commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda, nous sommes toujours en compagnie de Gassana Ndoba, professeur de littérature francophone à l'Université nationale du Rwanda, l'Université de Butare, ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme, aujourd'hui consultant notamment auprès de la Conférence internationale des Grands Lacs. Joseph Ndahimana, médecin en Belgique, ancien militant de l'opposition, il est membre de l'Institut rwandais de recherche et de dialogue pour la paix, et Jean-Paul Kimonyo, chercheur en sciences sociales, rattaché à l'Université de Butare. Il a publié l'année dernière aux éditions Cartala, Rwanda, un génocide populaire. Joseph Ndahimana, tout à l'heure j'ai posé une question sur la justice comme outil de réconciliation, une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que la forme de justice mise en place et le fameux gachacha, est-ce que ça a été un outil efficace dans la réconciliation des Rwandais, notamment à la base, la réconciliation des voisins?
Non, les gachacha n'ont pas pu justement jouer le rôle qu'ils étaient censés jouer. Tout simplement, les gachacha ont été introduits par le gouvernement rwandais comme un concept ésotérique, magique, pour dire que, effectivement, compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de dossiers, beaucoup de cas à juger, il fallait que le Rwanda ou le gouvernement rwandais invente une façon alternative d'exercer la justice. Mais dès l'annonce de gachacha, il n'y a pas eu beaucoup de Rwandais, Tutsi ou Hutu ou toi, qui ont cru dans l'efficacité de ces gachacha. Parce que les gachacha ne peuvent pas être introduits dans le contexte actuel, justement, où le gouvernement rwandais impose le silence sur les facteurs qui ont rendu possible ce génocide. Et les gachacha, tels que conçus anciennement par nos ancêtres, c'était une propriété de la population qui exerçait la justice pour son compte. Donc les gachachas sont subis par la population parce que la population ne peut pas exprimer sa façon de voir les choses. Les gachachas sont dirigés d'en haut par le pouvoir, un pouvoir politique, donc partisan, un pouvoir qui a peur qu'on dise certaines vérités qui le dérangeraient. Donc il n'y a pas moyen d'attendre des miracles de ces gachachas-là.
Jean-Paul Kimonyo.
Écoutez, là encore, j'ai une vision différente. Hein. Les gachachas ont été une potion amère à avaler de la part de tous les Rwandais. D'un côté, les gens disaient que c'était une démission, où il y avait trop de concessions qui étaient faites aux personnes accusées de génocide. Et de l'autre, les gens se demandaient, mais pourquoi est-ce qu'on demande des comptes à nous, les petites gens, alors qu'il y a des gens peut-être qui sont plus importants dans ce qui s'est passé. Il faut voir gachacha d'une part en termes historiques. Le problème, c'est qu'il fallait remédier à la culture de l'impunité au Rwanda. Et la culture d'impunité, l'impunité était tellement profondément ancrée dans le Rwanda qu'à chaque fois que s'est passé quelque chose, on mettait simplement la responsabilité sur les autorités politiques les plus élevées, alors que d'autres niveaux de la population ont aussi participé. Donc gachacha, qu'est-ce qu'il a fait? Gachacha a été de demander des comptes à tout le monde, mais en réduisant de façon très importante la gravité, pas la gravité des charges,
la lourdeur des peines,
la gravité des condamnations, et la lourdeur des peines. Mais d'une part, mais en diminuant beaucoup. Et d'autre part aussi, en demandant à ce que tout le monde puisse rendre des comptes. Ça a été un moment difficile et dangereux. On avait peur que le processus dérape dans la violence, dans une espèce d'anarchie généralisée, que les gens votent par leurs pieds, à savoir fouillent massivement le pays, des choses comme cela. Ça ne s'est pas passé. Il y a eu des violences, mais qui ont été limitées.
Oui, il y a eu des violences, notamment des accusés qui tuaient les témoins éventuels. Hein.
Absolument. C'était extrêmement choquant d'un point de vue moral. Mais si quelqu'un prend un peu de distance par rapport à la gravité de ce qui s'est passé et voit les réponses, notamment ces débordements-là, ils ont vraiment été, je dirais, relativement limités, très limités.
Gassana Ndoba.
Oui, à propos des gachacha, je suis d'accord avec Ndahimana que au départ, les Rwandais, en grande majorité, étaient méfiants vis-à-vis de cette nouvelle forme de justice. Mais ce que j'ai constaté sur place, dans le pays, pendant que le gachacha se faisait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait, les gens y croyaient de plus en plus. Et il y a une chose essentielle au-delà de la réconciliation, c'est la vérité. C'est d'ailleurs la condition de la réconciliation, à mon avis.
Oui, il faut rappeler peut-être pour nos auditeurs que le jugement se déroule en public là où les crimes ont été commis.
Absolument, avec la participation de l'ensemble de la population, avec la possibilité de faire venir des témoins qui habitaient la région au moment du drame et qui sont partis ailleurs, et qui reviennent témoigner et apporter leur part de vérité. C'est grâce à cela qu'une partie des victimes ont adhéré à Dachacha, jusqu'à un certain point, parce qu'ils y trouvaient leur compte du point de vue de la vérité. Ils arrivaient à savoir qui avait tué leurs proches, et dans un certain nombre de cas même, ils retrouvaient, grâce aux révélations faites dans les Dachacha, les corps des leurs, ce qui était essentiel pour faire le deuil, alors que jusque-là, avant les Dachacha, la grande frustration des victimes était précisément de ne jamais pouvoir faire le deuil parce qu'ils ne trouvaient pas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une formule qui a privilégié plus la vérité que la justice?
L'évaluation de Dachacha sur le plan quantitatif est faite. Dachacha a jugé beaucoup de gens. L'évaluation qualitative est encore à faire. Est-ce que la justice appliquée par Dachacha a été une bonne justice globalement? Je suis un témoin d'un certain nombre de cas. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas au niveau de la vérité, c'est qu'on a fait un énorme pas en avant.
Oui, alors on va
dans la compréhension du crime et dans la compréhension aussi de toutes les conséquences de ce crime.
Alors, très rapidement, sur la politique, il y a la réconciliation des citoyens, il y a la réconciliation de la classe politique. Joseph Ndahimana, est-ce qu'aujourd'hui, dans le système qui s'est mis en place après le génocide, on peut dire que tout le monde y a trouvé sa place sur le plan politique?
Mais, sur le plan politique, il y en a qui, par abus de langage, parlent d'opposition, en désignant notamment des partis qui sont membres du gouvernement aux côtés du FPR. Alors que légalement, donc l'opposition est interdite au Rwanda. Donc au Rwanda, il y a un climat, il y a une ambiance de parti unique, une ambiance de totalitarisme qui ne permet pas l'expression non seulement des divergences politiques, mais aussi l'expression par la société civile, donc de la pensée. Au niveau donc de la presse et au niveau des autres composantes de la population rwandaise. Donc le climat sociopolitique rwandais, c'est un climat empoisonné par cette volonté farouche du FPR donc d'empêcher l'expression de tout le monde.
Est-ce que par exemple les Hutus ont trouvé leur place dans les nouvelles institutions politiques qui se sont mises en place?
Au niveau numérique, il y a des Hutus parmi les membres du gouvernement, de l'Assemblée, il y en a à tous les échelons, mais cela n'est pas un signe donc de la participation des Hutus. Et encore une fois, le problème n'est pas les Hutus contre les Tutsis, le problème c'est un pouvoir qui empêche les Hutus, les Tutsis et les Twa de discuter des problèmes qui les concernent. Donc
oui,
il y a des Hutus de service, donc moi je ne considère pas la présence des Hutus au gouvernement.
Qui sont majoritaires au gouvernement, oui.
Ce sont des gens qui sont bien payés, qui sont corrompus, qui pensent qu'ils doivent prêter parfois même les idées au FPR pour essayer de le caresser dans le sens du poil.
Oui.
Et donc, il n'y a pas une ambiance de partage de pouvoir entre Hutus et Tutsis ou de participation des Hutus et des Tutsis au pouvoir. Il y a une peur qui frappe non seulement les Hutus, mais aussi les Tutsis de bonne foi qui aimerait qu'il y ait une évolution dans le débat rwandais.
Oui, Jean-Paul Kimbonyo.
Pour bien comprendre le Rwanda, il faut revenir à des modèles qui ont existé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche par exemple, la notion de démocratie consensuelle. Dans un pays profondément divisé, on ne peut pas se permettre une position frontale, parce que sinon on revient au conflit. Et les choses se font plutôt de façon consensuelle.
Est-ce que c'est ça qui explique que les partis politiques de l'opposition sont quand même au gouvernement?
Oui, absolument. C'est vrai qu'ils font partie du gouvernement. Mais c'est aussi pour cela que le débat n'est pas aussi vif que certains voudraient le voir. Donc, c'est quelque chose qui existe. C'est un modèle qui existe ajusté ailleurs pour des raisons historiques précises. Et c'est ce qui se passe au Rwanda. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça.
Oui. Gassan Ndoba.
Je crois que le Rwanda est effectivement un pays qui a un certain nombre d'éléments qui freinent encore la démocratie au sens où on l'entend habituellement, y compris en tenant compte du modèle que notre ami Jean-Paul Quimonieux vient d'évoquer tout à l'heure, celui d'une démocratie consensuelle. Je pense que nous devons encore faire des progrès en matière de débat, en matière de débat politique. C'est mon avis personnel. Cependant, je ne reconnais pas dans l'état du Rwanda aujourd'hui un état dictatorial, au sens où l'a dit Ndahimana, nous ne sommes pas en présence d'un pays qui, comme hier en Espagne, au Portugal, au Zaïre de Mobutu, est un ennemi de son peuple et que le peuple fuit massivement ou aborde massivement. Je vis au Rwanda depuis 10 ans, je n'ai pas ce sentiment, mais je reconnais que nous...
Mais est-ce que la politique, est-ce que finalement, la violence qui a été associée à la politique ou à la pratique politique depuis des années dans ce pays n'empêche pas les gens de considérer la pratique politique et le débat politique comme quelque chose de normal?
Il y a un double phénomène, à mon avis. Il y a un phénomène de censure relative de la part des autorités qui craignent que les choses ne débordent. Et pourquoi ne pas le dire, les autorités, comme d'autres autorités politiques ailleurs, ne souhaitent pas non plus que d'autres prennent le pouvoir à leur place. C'est une règle de la vie politique. Je crois que les Rwandais ne sont pas plus anges que les autres citoyens du monde. Mais il y a aussi, par ailleurs, une culture qui est en place au Rwanda et qui est le résultat de ces 30 années d'histoire qui ont été marquées par le parti unique. Parallèlement d'ailleurs, dans les pays d'accueil où se trouvaient des Rwandais émigrés ou réfugiés, la même culture existait. Et donc, de la part des citoyens, il y a aussi une forme d'autocensure. Il n'y a pas que la part des autorités qui limite la liberté d'expression légitimement ou pas, mais il y a aussi la dimension de la peur de se mettre en difficulté, y compris la peur égoïste, tout simplement de perdre des avantages qu'on a parce qu'on occupe une position ou qu'on a un commerce ou on a une affaire et qu'on n'a pas envie d'avoir des ennuis et de perdre cela. Et puis chez les petites gens, ne soyons pas non plus, ne parlons pas de ces choses de manière trop théorique. Le Rwanda est un pays en voie de développement, c'est-à-dire où une partie importante de la population n'a malheureusement pas accès à l'information, ne dispose pas des outils pour une véritable participation politique et devrait à cet égard être aidée, éduquée et encouragée à participer.
On arrive bientôt à la fin de cette émission, un mot sur la reconstruction économique. On se souvient qu'au lendemain du génocide, le pays était complètement exsangue. Aujourd'hui, quand on parle du Rwanda, ce sont des commentaires élogieux sur la modernité du pays, en tout cas un début de modernité, sur la propreté de la capitale, sur l'amélioration de l'habitat dans les campagnes. Joseph Nahimana, vous, comment évaluez-vous l'évolution du pays dans le domaine socio-économique?
Ben, vu superficiellement, il y a un développement, il y a des aspects de développement économique. Ça fait maintenant plus de 40 ans que le Rwanda est indépendant. Le Rwanda a connu des hauts et des bas. Il y a eu des aspects de développement qui sont comparables aux aspects actuels, notamment sous le régime de Habyarimana. Au Rwanda, il y avait une classe moyenne vraiment évidente. Actuellement, il n'y a pas de classe moyenne. Il y a une clique de nouveaux riches qui se recrutent parmi les très proches donc de la direction du FPR, mais le reste de la population, que ce soit les salariés, que ce soit ceux qui essaient de tenter d'être des hommes d'affaires, il n'y a pas de classe moyenne dans ce pays. Et
donc quand on parle de progrès dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, pour vous...
Dans le domaine de la santé, moi je suis médecin, je suis des choses d'assez près. Il y a l'introduction donc des mutuelles au Rwanda, ça c'est une bonne chose. C'est comme pratiquement les gachacha, potentiellement c'est une bonne chose. Mais les mutuelles ne peuvent pas fonctionner tant qu'au Rwanda, il n'y a pas une politique de santé publique réelle. Il y a une pratique de la médecine commerciale à Kigali, tandis que dans le reste du pays, j'ai une idée, donc le Rwanda a reculé, il se trouve avant pratiquement son indépendance.
Donc, pourtant, on parle des dispensaires dans les campagnes où on trouve même des trithérapies pour les malades du sida.
Oui, les trithérapies, les mutuelles, tout ça, ce sont de bonnes choses, mais c'est un pas qui a besoin d'être renforcé par une orientation plus saine en matière de santé publique. Donc de la part du gouvernement rwandais, s'il a encore le temps et la volonté de le faire.
Oui, Gassana Ndoba.
Donc la reconstruction économique, je suis d'accord sur une chose, c'est qu'il y a des écarts entre riches et très pauvres, mais je ne reconnais pas le Rwanda dans la description de Joseph Ndahimana. Il n'y aurait pas le dynamisme économique que nous avons s'il n'y avait pas de classe moyenne. Il y a une classe moyenne au Rwanda et le nombre de diplômés depuis les 15 dernières années qui sont entrés dans diverses fonctions, dans le privé comme dans le public, est précisément un apport important de cette classe moyenne. Les villes rwandaises qui poussent comme des champignons, où l'habitat est meilleur, ça n'existe, ce genre de choses n'existe pas sans classe moyenne. Les emplois dans le tourisme et dans un certain nombre de nouveaux secteurs, y compris les nouvelles technologies, toutes ces choses ne peuvent pas exister sans une classe moyenne. Et une classe moyenne de plus en plus instruite, de plus en plus dynamique, de plus en plus connectée à la mondialisation avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc à cet égard, je ne partage pas l'évaluation de Joseph, mais je reconnais qu'il y a des écarts, il y a des gens très riches et des gens plus pauvres, et la politique de lutte contre la pauvreté a sans doute encore beaucoup de progrès à faire.
Oui, Jean-Paul Kimonio.
Oui, peut-être un éclairage par rapport à des indicateurs économiques objectifs. Au niveau de la santé, le Rwanda est parmi les pays africains qui ont les meilleurs indicateurs économiques en médecine. Deuxièmement, le Rwanda a connu une diversification économique profonde, à savoir qu'il a essayé de se départir un petit peu de l'agriculture, qui par ailleurs était complètement en lambeaux avant même le génocide. Donc c'est un pays qui était ruiné. Donc il y a eu un fort investissement dans de nouveaux secteurs, et malheureusement ces nouveaux secteurs-là, qui sont porteurs économiquement, sont aussi créateurs d'inégalités. Mais par ailleurs, la bonne nouvelle que je voudrais peut-être annoncer à Joseph, c'est que par exemple l'année dernière, l'agriculture a fait une progression de 15%. Et l'année dernière, le Rwanda a eu un taux de croissance de 11,2 du produit national brut, essentiellement sous l'impulsion d'agriculture. Et cette impulsion d'agriculture-là va très certainement remédier un petit peu au problème d'inégalité que mes deux prédécesseurs ont parlé. Mais de façon générale, au plan économique, le Rwanda est un pays qui avance et maintenant qui essaye d'amener aussi les populations les plus pauvres à avancer avec elles.
Oui, voilà. Joseph Nahimana, mais vraiment en un seul mot. Car les Rwandais disent que c'est une société qui bascule vers la modernité. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Très brièvement, donc les garanties d'une stabilité et d'un développement durable sont incompatibles avec le climat de terreur et la peur de dire toute la vérité qui a été imposée par le FPR. Donc ce qui laisse redouter qu'au Rwanda, il y ait de nouveau donc une chute encore plus bas que ce qu'on a eu en 94.
Oui, Jean-Paul Kimonio.
Moi, quand on parle de chute plus bas que ce qui s'est passé en 94, moi je ne prends pas ça.
Oui, mais la modernité, j'ai posé une question sur la modernité.
Par rapport à la modernité, certainement, à deux vitesses, entre Kigali, qui avance très vite, et le reste du pays qui avance un peu moins vite. Mais, comme je vous ai dit, là, le reste du pays aussi commence à suivre, mais c'est clair, c'est un pays qui avance dans la modernité de façon très claire. En épousant les nouvelles technologies, en faisant preuve d'inventivité économique, c'est un pays qui avance très certainement. Oui,
oui, Gassana Ndobaye, ce sera le mot de la fin.
Oui, je pense que mes fonctions de consultant au niveau international me donnent l'occasion de voir un certain nombre d'autres pays dans la région, et en particulier dans la sous-région des Grands Lacs. Je peux dire franchement que le Rwanda progresse sur le plan économique, sur le plan de la modernisation. C'est l'image que me renvoient mes interlocuteurs de ces autres pays proches du Rwanda, qui ont visité le Rwanda, qui suivent les progrès du Rwanda et qui me disent très souvent « on aimerait bien avoir cela chez nous ».
Et on en reste là. Merci à tous les trois. Merci à toute l'équipe technique du débat africain, Cyril Etienne et Laurence Colonne. Merci à tous pour votre fidélité. On vous retrouve dimanche prochain.